Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma version courte mais chic quand même, ça s'appelle l'Extra Ball, notre petit coup de projecteur épisodique sur une sortie ou comme ça va être le cas là tout de suite une réédition puisqu'on va parler de L'Au-delà de Lucio Fulci, grand classique longtemps dénigré du cinéma d'horreur qui ressort en Blu-ray chez Artus dont on va parler avec mes camarades. Hello Jimmy Battista, salut Jimmy.
Salut Thomas.
Et Julien Dupuis, salut Julien.
Salut Thomas.
Cinociné Extra Ball spécial L'Au-delà et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
L'au-delà et tout vivra in terrore l'aldilà en version italienne.
Ce qui signifie.
Je n'en sais absolument rien. Parce que donc Lucio Fulci est italien, évidemment. Le film date de 80. Ça veut dire quoi, Julien? Tu sais, toi, ce que ça veut dire? Et tout vivra nel terrore? Tu vivras dans la terreur.
Ouais, oui, je crois c'est ça.
C'est une des répliques du film.
Ah oui, oui, oui. Léo Jimmy Battista. Bien sûr, j'aurais dû reconnaître.
Ouais, je suis pas italien, mais
non,
voilà.
Presque, c'est pareil, tout ça. Jimmy, tu sais, c'est pareil, tout ça. Le Portugal, l'Italie, tout ça, c'est à côté. Le film, lui, date donc de 1980. C'est 81, c'est un classique, ça a pris le temps, je crois, Julien, parce qu'à sa sortie, ça n'a pas franchement été bien accueilli.
Non, c'était plutôt un échec. Non, ouais. C'est marrant, parce que c'est un film qui a été produit grâce au succès monstrueux de L'Enfer des zombies, que Lucio Fulci avait réalisé avant, et qui est aussi devenu un classique par la suite. Et c'est assez bizarre, d'ailleurs, parce que c'est une réflexion qui est un petit peu à côté, en fait, du film. Mais là, on parle, en fait, d'une édition qui est faite par Artus, qui est faite par des amateurs, mais aussi, je dis ça avec au sens vraiment noble, parce que c'est très pro hein, leur travail sur le film. Hein. Mais du coup, tu te retrouves avec ces films-là qui ont toujours été relégués un peu au bas-fond de l'exploitation, oui. Que ce soit dans la sortie salle, ou même bah, nous, comme on a pu les découvrir, j'imagine, des gens de notre génération, c'est-à-dire dans les vidéoclubs, pas très loin des films X, et puis avec des jaquettes un peu racoleuses, et puis une copie vidéo dégueulasse, recadrée, etc. Et c'est très marrant, parce que du coup, tu te retrouves avec tous ces films un peu d'exploitation, en fait, qui se retrouve avec des traitements princiers aujourd'hui en Blu-ray, grâce à tous ces éditeurs comme Ecstasy of Film, Le Chat qui Fume et Artus, là en l'occurrence. Et je m'interroge en fait sur comment tu peux recevoir et découvrir en fait le film aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que l'au-delà, l'effet que produisait de l'au-delà, venait aussi du fait que bah, tu découvrais ça dans un truc un peu interdit en fait de la cinéphilie, et puis tu découvrais finalement qu'à l'intérieur c'était un peu plus compliqué que ça. Quoi. Et du coup, c'est très bizarre.
Oui, ça nous était pas présenté comme un chef-d'œuvre.
Ça reste un pur film d'exploitation. Sûr, ouais. C'est aussi l'intérêt du film, c'est-à-dire que. Du coup, j'étais un petit peu coupé dans ton introduction.
Je continuais comme ça.
Non, mais une des choses que je trouve intéressante chez Fulci, c'est les contrastes en fait dans son cinéma. C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui travaille manifestement dans le cinéma d'exploitation assez craspec. Il faut le dire quand même, assez racoleur sur certains côtés. Et d'ailleurs, Fulci vient de là. C'est-à-dire qu'avant de se découvrir dans le cinéma d'horreur, il a touché à pas mal de genres différents. Il a fait du western, il a fait de la comédie un peu érotique. Plus tard, il fera du film post-apocalyptique aussi. Et en même temps, il y a dedans des élans un peu autorisants. D'ailleurs, l'au-delà est souvent comparé à Inferno de Dario Argento. C'est-à-dire que tu touches à un truc un peu surréaliste, un peu décalé. Le film n'est pas forcément narratif. D'ailleurs, l'histoire est assez nébuleuse. C'est assez difficile à suivre.
Le prémisse, c'est une femme qui ouvre un hôtel à la Nouvelle-Orléans qui se retrouve être une des portes de l'enfer.
Voilà, enfin, qui se retrouve être construit en fait sur une des portes de l'enfer. Ouais. Et tu as une séquence pré-générique en fait qui pose les bases en fait de cette malédiction là et qui fait appel à une iconographie extrêmement classique. Je crois que Fulci était amateur en fait des films Universal, des films de monstres de la Universal des années 30. Et ça se sent un petit peu en fait là-dedans. Bon, un petit peu parce que tu as quand même l'imagerie de l'époque du cinéma italien avec quand même quelques zoom et puis cette photographie quand même qui est très très particulière, hein, qui peut être un petit peu rédhibitoire, je peux le comprendre hein, parfois, mais en fait très vite l'au-delà se présente plus comme une série en fait de vignettes qui donc passent du gore assez dégueulasse. C'est-à-dire que Fulci, il avait une espèce de spécialité qui était les nucléations à l'époque, parce qu'il y avait une scène très connue en fait qui est devenue assez culte de l'Enfer des zombies. T'as une nana qui se retrouve avoir un œil transpercé par une grosse écharde. Alors il te refait la même scène mais à l'envers en fait, dans l'au-delà. Là c'est la tête voilà, contre un clou par derrière et du coup l'œil ressort par devant. Donc t'as des choses comme ça, puis t'as des scènes totalement décalé, véritablement onirique. T'as par exemple une rencontre entre les deux personnages féminins principaux en fait du film sur un pont qui semble s'étendre comme ça à l'infini avec des lignes claires totales. C'est deux jours, t'as pas de repère spatial et tu es déjà dans une espèce de no man's land en fait. Tu es un peu déjà dans des limbes et le film semble comme ça se dérouler sur un ce qui est finalement le thème hein, du film se déroule dans un entre-deux. C'est-à-dire que très vite les personnages, tu sais pas trop s'ils sont morts ou s'ils sont vivants. T'as ce personnage d'aveugle en fait qui est potentiellement un fantôme en fait qui revient visiter l'héroïne et lui annoncer ou lui dévoiler en fait le drame qui est en train de se jouer. Et les 20 dernières minutes du film se déroulent vraiment dans un univers annexe en fait où qui n'est peuplé qui n'a plus de vivants à part les deux personnages principaux et qui n'est peuplé que de morts. Et même dans le traitement en fait de l'horreur, Fulci joue aussi du contraste, c'est-à-dire que tu as la scène de l'inéclation dont je parlais tout à l'heure, t'as un monsieur aussi qui se fait manger par des tarentules aussi dans une séquence assez dingue parce que c'est pareil en fait, c'est à la fois très
bonjour
audacieux, très dérangeant et en même temps un peu zèbre parce que t'as à la fois des vraies tarentules puis t'as des fausses tarentules en plastique qui bougent pas du tout et tu peux pas les louper tu vois. Et les fausses têtes c'est pareil. Alors, moi j'aime beaucoup Gianetto Todde Rossi, j'ai un immense respect pour ce monsieur qui faisait les effets spéciaux de Lucio Fulci, mais bon, il faut quand même avouer qu'on est quand même en 1980. Enfin, je veux dire, à l'époque, ça avait vachement évolué les effets spéciaux de maquillage. Lui, il était dans quelque chose de beaucoup plus archaïque, mais qui sert aussi le film. C'est-à-dire que, par exemple, comme dans L'Enfer des zombies, t'as le visage en fait des zombies qui est fait à partir de terre glaise et de latex liquide, etc. Ça devient presque des œuvres d'art abstraites. T'as aucun réalisme en fait là-dedans. C'est juste des espèces d'amas de chair tuméfiées. Tu sais pas trop comment elles ont été. Elles ont pu la pourriture en fait des cadavres
a pu donner ça. Ouais.
Et je trouve que dans l'au-delà, ils poussent le principe jusqu'à très très loin. C'est-à-dire que t'as une mère qui fond. Et qui se retrouve, sa petite fille le voit sa mère en train de fondre, et la mère se retrouve réduite à l'état d'une flaque écarlate, un peu rosâtre en fait, même pas vraiment rouge. Et t'as cette image que je trouve très marquante avec les deux chaussures de la petite fille, les chaussures vernies comme ça, avec la flaque qui avance vers ses chaussures. Et tout ça est poussé au paroxysme dans l'au-delà jusqu'à, alors je la dévoilerai pas, mais les dernières images en fait du film. Qui sont une représentation d'un au-delà et d'un ailleurs sans aucune marque, sans aucune trace. Et je trouve que c'est des images extrêmement marquantes. Il a réussi à atteindre quelque chose d'extrêmement iconographique. D'ailleurs, c'est inspiré d'une peinture qu'on voit dans le film et de réels peinteurs. J'ai oublié le nom du peintre en fait, qui a inspiré Fulci en fait, pour ces scènes-là. Mais il a atteint là quelque chose qu'on ne voit pas souvent en fait, au cinéma, où on est forcément dans le figuratif. Définitivement, l'au-delà n'appartient pas à cet univers-là. Ça reste un film d'exploitation quand même, il faut le dire. Hein. C'est élans d'humour très bizarres. Il y a Fulci qui joue un rôle d'une espèce de bibliothécaire syndicaliste dedans. Bon, c'est très bizarre, mais c'est aussi toute la saveur de ce cinéma-là qui n'a aucun interdit, qui mélange le profane et le sacré allègrement, etc.
Jimmy. Moi, je suis assez d'accord un peu sur ce qu'a dit Julien, notamment sur la fin. Moi, c'est une de mes fins préférées de tous les temps. En fait, elle rachète presque tous les petits défauts qu'il y a tout le long du film, tellement elle est assez hallucinante. Et surtout, elle a un côté, comme tout le film d'ailleurs, un peu onirique, poétique, qui n'est pas forcément, enfin, onirique et poétique, c'est pas forcément des mots que tu vas rattacher à Fulci, ou même au cinéma italien d'exploitation de cette époque-là, parce que, enfin, voilà, c'est, comme dit Julien, c'était vraiment des money makers, hein, ils sont pas là pour, moi je me souviens de, je sais pas si les bonus ont été repris dans la nouvelle édition de l'Enfer des zombies, mais dans une ancienne, il y avait des, ils interviewaient, enfin, l'équipe du film, notamment, enfin, chez FOP, etc., et où les gens des effets spéciaux, et les mecs rigolaient à la moitié des questions du journaliste, parce que le mec posait des questions très, la vision, le machin, et eux, ils étaient morts de rire, pour eux, c'était, mais non, on fait de l'argent, on n'en a rien à foutre. On ne sait pas que tu as. Ils interviewaient des fois des gens qui se demandaient pourquoi ils étaient interviewés. C'était vraiment assez hallucinant, quoi. Parce que c'est quand même un truc qu'il faut toujours garder un peu à l'esprit de ce cinéma-là. Parce que, bon, voilà, le côté un peu fan des fois des gens peut laisser perdre ce côté-là, quoi. Mais par contre, bah, voilà.
Et surtout dans ces éditions-là, ouais.
Et effectivement, bah, sur celui-là, il arrive quand même à un truc effectivement, qui est presque un film, enfin, ouais, autorisant, comme tu disais, quoi. C'est-à-dire, bah, on est vraiment sur un truc assez poétique, assez. Enfin, toutes les. Il a toujours. Fulci a toujours une vision assez forte, quand même. C'est-à-dire que tous ses films. Des visions qui peuvent être assez drôles, tu vois, aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir une scène assez marquante, assez visuelle, que ce soit dans l'Enfer des zombies, bon, forcément, t'as ce combat zombie-requin que tout le monde retient.
Mais
parce
qui est un
que
peu poétique, déjà, bah, voilà. Qui est dans son rythme, un truc un peu.
C'est exactement ça, quoi. C'est que t'as des scènes qui sont entre le burlesque et le poétique, quoi. Ou bien, c'est en Frayeur, je crois qu'il y a une attaque de chauve-souris qui est complètement délirante. Ça hurle non-stop pendant 2 minutes, les enfants se prennent du sang. Enfin, c'est. Enfin, je sais pas, cette scène, j'ai trouvé assez folle aussi, et dans l'au-delà, t'as que ça quasiment, quoi. T'as plein de petites scènes de vision, bah, notamment la scène de l'aveugle avec son chien, enfin, ces trucs-là, c'est effectivement quand tu vois ça, quand tu t'es tapé un peu tous les films de cette époque-là, que tu dis où est-ce que je suis tombé, quoi. C'est, c'est quand même un film assez à part, quoi. Oui. Et moi, je sais pas, on parle souvent, par exemple, dans les films fantastiques, de films lovecraftiens ou quoi. Oui. Celui-là, je trouve qu'il n'est pas lovecraftien. Il est assez proche d'un auteur qui n'est pas très connu, qui s'appelait Clark Ashton Smith, qui est mort au début des années 60. C'est un auteur américain et qui est entre Lovecraft et Robert. C'est Howard, l'auteur de Conan le Barbare. Oui, oui. C'est un peu le mélange des deux, quoi. Une espèce de truc un peu occulte.
Épique occulte,
voilà. C'est assez étrange et c'est vraiment. Il a sorti un recueil de nouvelles qui est assez connu qui s'appelle Zotique. Si vous pouvez lire ça, c'est vraiment assez proche de ce qu'on peut. En tout cas, c'est assez proche de ce qu'on peut trouver, je pense, dans le tableau de l'au-delà.
Mais ce qui est assez marrant, c'est que assez vite, Fulci s'est donné quand même des allures d'auteur. Enfin, lui, il citait Artaud allègrement, etc. Alors, je crois qu'après, il a fait amende honorable vers la fin de sa vie en disant que
finalement,
c'était peut-être pas tout à fait ça, quoi. Ouais. Mais je pense quand même, parce que pour rendre à César tout ça, que le film n'aurait pas été non plus rendu possible s'il n'y avait pas eu Inferno, en fait, de Dario Argento avant. Il y a un truc quand même entre les deux films. Et je pense que Argento, il a aussi ouvert les portes de l'esprit, quoi, si j'ose dire, en œuvrant finalement dans quelque chose qui se retrouve un peu dans l'au-delà. C'est-à-dire que où le fantastique, en fait, déstructure l'espace et le temps. Et qu'il y a un truc qui est. Finalement peu travaillé en fait au cinéma, je trouve, et c'est dommage, et parce qu'on voit en fait dans l'au-delà à quel point ça peut être à la fois perturbant et tout à fait exaltant, en fait, d'avoir ce genre d'effet.
Et pour le voir, donc, c'est sur cette belle édition Blu-ray sortie chez Artus, on l'a dit.
Ouais.
Julien,
alors ils ont fait je pense pas qu'ils aient repris d'anciens bonus, j'ai l'impression que tous les bonus qui sont là sont des nouveaux bonus. Il y a que les comédiens là pour le coup qui sont interviewés, ce sont des interviews qui ont l'air très récentes. Donc là, il y a beaucoup plus de déférence envers Fulci, même si tous ils rappellent que c'était par exemple quelqu'un qui était très, très colérique sur ses tournages, et pas forcément évident. Et que les conditions de prise de vue étaient parfois un petit peu... comment dire, précaire, oui. Notamment sur la scène de fin, quoi, qui a d'ailleurs suscité beaucoup de légendes, en fait, sur sa confection.
C'est-à-dire des légendes, je les connais pas, moi, les légendes.
Bah, je peux pas trop dire parce que j'ai peur de spoiler, quoi. Voilà, on en parlera une autre fois.
Dans une prochaine émission,
Artus, en fait, comme ce qu'ils avaient fait pour leur édition de l'Enfer des zombies, et ce qu'ils feront aussi parce qu'ils vont en sortir d'autres, des Fulci, ils ont mis le disque dans un super beau digibook avec plein de photos, etc. C'est du très beau travail, quoi. Voilà.
Une belle idée de cadeau pour Noël dès le mois de septembre.
Et très étonnant, encore une fois, pour un film comme ça, tu vois. C'est ce qui est fou aujourd'hui, c'est que tu as des films de répertoire, des grands classiques qui sont bazardés parce que les studios n'ont plus rien à foutre du physique, en fait. Mmh. Et tu te retrouves avec, avec ces films-là qui, proportionnellement, se retrouvent avec des traitements totalement royaux et princiers. Moi, je suis très heureux, évidemment.
Oui,
mais je m'interroge sur la mutation, en fait, de la cinéphilie qui va être induite par ça. Parce que forcément, le support sur lequel tu découvres le film
joue
énormément dans ta perception de ce film, quoi.
On en reparlera peut-être dans une prochaine émission, dans un Ociné-Club. C'est un beau sujet que tu nous lances là, Julien. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Quentin La Technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Binge.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.